Je me retrouve devant une salle presque vide et c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais heureusement, l'équipe de louanges est restée, les techniciens aussi. Donc, je me sens un petit peu moins seule que la dernière fois où j'ai fait ça devant, je crois qu'on était que deux. Voilà. Parce que c'est, il y a quand même quelque chose qui se passe entre l'auditoire et celui qui parle et c'est vrai que ça simplifie pas les choses. Mais voilà. Alors, c'est intéressant. Malheureusement, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de traduire la prière que vous venez d'entendre, mais l'accent était mis sur l'amour, sur l'espérance, sur l'unité. Et cette nuit, un peu comme dimanche dernier, je réfléchissais à ce que j'allais dire, et il m'est venu ce verset. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et c'est malheureusement un peu ce qui se passe en ce moment. Hein. On est dispersé, l'Église est dispersée, mais l'Église est toujours là. Dispersée ou non, ça reste l'Église de Jésus-Christ. Et j'ai cherché un petit peu qu'est-ce qui se passe quand l'Église est dispersée. Et dans Acte 8, verset 4, voilà ce que j'ai lu. Là où il passait, alors, ce jour-là, une grande persécution s'est abattue sur l'église qui était à Jérusalem. Acte 8 commence comme ça. Et le verset 4 dit, « Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se lamentaient, ils rouspétaient, ils s'occupaient de leurs petites affaires. Non, là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole. » Comme une bonne nouvelle. La parole est une bonne nouvelle. Et je me suis dit, waouh, c'était autre chose à cette époque, hein. C'était la dispersion, la persécution. Ils risquaient leur vie, ils risquaient d'aller en prison dans le meilleur des cas, d'être lapidés dans le pire des cas. Étienne venait juste d'être lapidé. Et ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Et j'ai pensé que c'est peut-être l'occasion d'annoncer la parole. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, on n'en a pas trop la possibilité. Il y a ceux qui sont coincés chez eux, il y a ceux qui travaillent à la maison, il y a ceux qui... Oui, mais on a quand même des tas d'occasions avec le téléphone, entre autres, avec Skype. Et je pense que c'est une occasion jamais de, quand on est dispersé comme ça, de montrer que l'Église est toujours une et que on peut transmettre une bonne nouvelle. Et je crois qu'il faut penser à tous les gens qui sont seuls et qui seront contents d'avoir un coup de téléphone. Et dans l'église, il y en a quelques-uns, pensez-y. Quel que soit leur âge, s'ils sont seuls, c'est bien de pouvoir leur passer un coup de fil et de continuer à rassembler l'église, même si elle n'est pas rassemblée physiquement. Mais je crois que les communications permettent de se rassembler, de s'encourager et de transmettre ce message, la bonne nouvelle. Ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Et dans notre dispersion, on peut continuer à le faire. Et plus que jamais, parce qu'on voit nombre de gens qui sombrent dans la dépression, qui sont de plus en plus mal. Tous les gens qui avaient déjà des petits problèmes psychologiques, parfois pas bien méchants. Mais bah, ça s'aggrave parce qu'on est seul, parce qu'on a l'impression d'être enfermé, on a l'impression d'être bâillonné, etc. Et je pense que c'est le moment ou jamais, en tant qu'Église dispersée, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Un message d'espérance, un message d'amour. Et voilà, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Ma sœur a souvent des coups de téléphone et elle fait ce travail. Bon, c'est vrai que c'est dans son ministère naturel, c'est dans son appel. Mais déjà cette semaine, elle a pu aider des tas de gens. Et je crois que voilà, l'Église dispersée va annoncer la bonne nouvelle, on va pas se lamenter, mais on va annoncer la bonne nouvelle. Ça m'a beaucoup parlé. Et ça va de pair avec le message qu'on est en train de faire sur les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et c'est important, ce pour la gloire de Dieu. On va commencer par lui, parce que j'aime bien le pourquoi des choses. Comme je vous ai déjà dit, je supporte pas qu'on dise à un enfant « c'est comme ça parce que c'est comme ça ». Ouh, ça j'ai horreur. Il y a une raison et il faut la donner chaque fois que c'est possible. Et là, c'est pour la gloire de Dieu, la raison. Ah, C'est pas parce que c'est sympa, c'est pas parce que c'est politiquement correct, c'est pas parce que c'est gentil. C'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. On reste dans ce registre-là, pour la gloire de Dieu. Et c'est important parce que si par exemple un homme est très honoré parce qu'il a eu un prix Nobel, parce qu'il a fait un exploit quelconque, l'honneur rejaillit sur toute sa famille. Et c'est un petit peu comme ça avec nous chrétiens par rapport à Dieu. Si nous chrétiens on fait quelque chose de bien, qui donne de l'amour, qui donne de l'espérance aux gens, eh bien la gloire de Dieu n'en est que grandie. À l'inverse, chaque fois qu'on disperse, chaque fois qu'on divise, chaque fois qu'on dit des choses qui sont pas encourageantes, eh bien ça atteint la gloire de Dieu. Et je crois qu'il faut davantage réfléchir à ça. Alors, j'avais une maman, merci Seigneur, qui était très à cheval là-dessus. Pour la gloire de Dieu, on fait les choses pour le Seigneur. On veut l'honorer, on veut donner un bon témoignage. Vous voyez toutes ces expressions. Et j'ai été un peu élevée avec ça. Et parfois, on a besoin de réfléchir, de que ça reste pas des mots. C'est pour ça, l'autre jour, j'ai passé du temps à chercher dans les dictionnaires bibliques, etc. C'est quoi exactement la gloire de Dieu? C'est sa réputation, c'est l'image qu'on en donne, c'est etc. Enfin, je vais pas faire ce message ce matin, mais pensons que quand on accueille les autres, quand on rassemble au lieu de disperser, on est dans le cadre de Luc 11:23, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Et je pense que il faut rassembler autant que possible par nos paroles, par nos attitudes. Donc, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai cherché un petit peu, je suis allée voir André parce qu'il fait les recherches sur Internet, comme nous, on n'a pas fait de grec. Quel était le mot qui était utilisé ici? Et la traduction, elle est intéressante. Vous savez, parfois, c'est intéressant de savoir les différents sens d'un mot. Et c'est entre autres, bien sûr, recevoir dans sa maison, accueillir, bien sûr. Mais il y a un sens qui m'a vraiment plu, c'est prendre par la main pour emmener ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Accueillir, prendre par la main pour emmener ailleurs. C'est pas simplement bonjour, accueillir gentiment. Le Larousse parle de recevoir quelqu'un qui arrive et qui se présente. Ça, c'est le mot qu'on utilise effectivement, le sens qu'on utilise le plus couramment. Comme le Christ vous a accueilli. Et ça fait réfléchir aussi parce que, waouh, si on se compare à Jésus, on est mal, hein. Et Alfred Kuhn dit ceci, oui, il nous a accueillis. Rappelons-nous dans quel état et dans quelle disposition nous étions lorsque nous avons été accueillis par le Christ. Et Romains 5, 6, 10 dit ceci, lorsque nous étions encore sans force, pécheurs, ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Rassemblés, réconciliés. Nous n'étions guère intéressants ou dignes de son amour au moment de notre conversion. Et pourtant, le Christ nous a accueillis tels que nous étions. Avec notre diversité de tempérament, de caractère, et il l'a respecté. Avec nos préjugés, nos faiblesses, nos idées fausses, il nous a supportés patiemment. Il nous supporte encore, malgré nos divergences, même divergences de doctrine. Pourtant, il continue à nous accueillir et à nous bénir. Tout un programme. Et j'ai recherché un peu comment est-ce que Jésus accueillait les gens. Et bien sûr, bon, on va prendre les textes les plus connus, c'est plus facile. Mais dans le Nouveau Testament, on a tout ce qu'il faut, hein. Et ce cher jeune homme riche dont on parle souvent, ce jeune homme au cœur partagé, je me suis arrêtée sur la façon dont Jésus l'a accueilli. La Bible dit ceci, Marc 10, 21, Jésus le regarda et l'aima, au coup d'œil, simplement. Il l'a aimé. Et pourtant, lui, il savait tout. Il savait que son cœur était partagé. Il connaissait bien son idole. Mais malgré tout, il a posé un regard d'amour et de bienveillance sur ce jeune homme riche. Ça n'empêche pas. Voir les problèmes n'empêche pas le regard d'amour et de bienveillance. Il regarda ce jeune homme et il l'aima. Ça veut dire que dans ce genre de rencontre, Jésus n'était pas influencé par l'apparence, même la bonne apparence. Parce que c'est sûr que quand il y a une mauvaise apparence, on est chrétien, on fait un effort. Mais une bonne apparence, c'est séducteur. Et le jeune homme riche, à mon avis, devait être très, très chic. À l'époque, on portait un peu sa richesse sur soi. Des vêtements avec des fils d'or. À l'époque, c'était la pourpre aussi, hein, qui était très, très chère, qui venait d'un coquillage, le byssus, je crois, et c'était rare et très cher. Et avec les patriciens qui avaient le droit de l'avoir, c'est-à-dire les gens riches et nobles. Et donc, on portait sur ses vêtements tous ces signes de richesse, en fait. Il devait aussi être très courtois, parce qu'il était bien élevé. Visiblement, il devait faire une très, très bonne impression. Et Jésus n'a pas été insensible à cette bonne impression. Il l'a regardé, il l'aima. Donc, il n'est pas hostile aux bonnes impressions, ni aux mauvaises. Et je crois qu'il faut aussi, nous aussi, être conscient qu'on peut être influencé par l'apparence de quelqu'un. Et ça ne doit pas jouer dans notre accueil. Chercher à être comme Jésus. Jésus savait bien ce qu'il y avait derrière cette apparence. Mais il l'a aimé, il l'a trouvé sympathique. Et chacun de nous, il nous trouve sympathique, il nous aime. Et je pense que c'est important de toujours, je le redis toujours, mais je le dirai jamais assez. N'imaginez jamais que Dieu pose un regard scrutateur sur vous. Un regard colère parfois. Non, non, non. Jésus le regarde et l'aime alors qu'il savait très bien qu'il préférait son idole à suivre Jésus. Mais quand même, il l'a aimé. Il a vu tout ce qu'il y avait de super chez ce jeune. Le jeune homme riche, la Samaritaine. Ah, la Samaritaine. Alors, elle n'avait pas une vie très recommandable. Et ça ne l'a pas dérangé de s'asseoir à côté du puits, de s'asseoir sur le bord du puits avec cette femme. Alors, là, c'était doublement important parce que Jésus montre qu'il ne fait pas cas du genre. Homme ou femme, il a exactement la même attitude. Romain, Samaritaine, et vous savez que les Samaritains, c'était un petit peu les moutons noirs, hein, parce qu'ils avaient mélangé la religion juive avec d'autres habitudes qui avaient été plus ou moins héritées d'habitudes païennes. Bon, ils avaient fait un joyeux mélange, ils adoraient ailleurs qu'à Jérusalem, enfin c'était un petit problème. Et les Juifs, oh non, ils ne se salissaient pas avec les Samaritains, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Mais Jésus ne fait absolument pas cas de tout ça. Et franchement, à cette époque, c'est incroyable. Quand il s'agit de Romains, c'est encore pire, parce que c'était les envahisseurs. Jésus ne fait pas cas. Il accueille exactement de la même manière. Il s'assied devant cette femme et il lui parle. Il lui pose des questions. Il sait où il veut aller, mais il l'accueille comme si tout était normal. Alors, il va avoir la même attitude avec la femme adultère que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Il ne regarde pas à tout ça, à tout ce que les hommes jugent, à leur façon de casser, de détruire. Et ça, c'est formidable. Et quand on est un peu déprimé, je pense qu'il faut penser à ce regard de Jésus, ce regard qu'il pose sur nous. Et je crois que c'est Jules Taubois qui a écrit un livre super sur ce regard. Alors ce regard, je ne sais plus, merveilleux, celui que Jésus pose sur nous. Quelque chose comme ça, le titre est. Et franchement, c'est vrai, pensons à ce regard, c'est très encourageant. Il se préoccupe pas de la réputation de la personne. Il se préoccupe pas du jugement que les autres posent sur cette personne. Et ça, c'est pas facile. Hein. Il se préoccupe pas du regard des autres. Parce que vous imaginez, avec la femme adultère, il avait tous les yeux des pharisiens qui étaient braqués sur lui, prêts à le prendre en faute. Si tu la condamnes, c'est que ton message d'amour, c'est du vent. Si tu la condamnes pas, c'est que tu crois pas à la loi de Moïse, donc tu peux pas, etc. Et ce regard des autres, il s'en est même pas occupé. Alors ça, c'est pas facile. Pour nous, humains, on est quand même sensibles au regard des autres, qu'on le veuille ou non. Mais c'était pas son problème. Parce que son royaume n'était pas de ce monde. Il va même pas s'occuper de la politique de son époque. Et ça, en ce moment, aux États-Unis, c'est un gros problème. Et ça sera sans doute chez nous bientôt. Il s'occupe pas. Le collecteur d'impôts, il a besoin de la grâce, il a besoin de la bonne nouvelle, autant que le pharisien, autant que la femme adultère, autant que le pauvre jeune homme riche. Il s'occupe pas de la politique. Et pourtant, à l'époque, c'était important. Rappelez-vous que si Jésus a été vendu pour quelques pièces d'argent, c'était parce qu'il y avait ce courant zélote qui voulait se révolter contre l'Empire romain, contre l'occupation romaine. Donc c'était important, mais il s'en est pas occupé. Le collecteur d'impôts avait un cœur. Et il cherchait à viser ce cœur. Vous allez avoir ça avec Zachée, qui a tellement été touché par l'amour de Jésus, alors que tout le monde braquait des regards courroucés contre lui. Les gens le haïssaient. Et on les comprend. Collabo de la pire espèce, qui, au lieu de prendre juste les impôts, en rajoutait. Eh bien, il va non seulement rendre, mais rendre en rajoutant. Et simplement parce qu'il a été au contact de Jésus. Donc, ce genre d'accueil, c'est pas facile. Mais c'est l'accueil que Jésus nous demande d'avoir. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Alors, on va dire, oh là, on n'y arrivera jamais, mais c'est peut-être un petit peu illusoire d'accueillir les gens comme ça, parce que finalement, on les accueille, mais quelque part, ils ont besoin de changer aussi, hein. Ben oui, mais Jésus, ça ne l'empêche pas. Et ce qui est curieux dans l'accueil de Jésus, c'est que ça ne va pas l'empêcher de mettre le doigt sur les vrais problèmes. Il accueille, il a un regard d'amour, il regarda ce jeune homme et il l'aima, mais ça ne l'empêche pas de mettre le doigt sur le vrai problème. Mais il pose des questions. Il n'y va pas avec la mitraillette. Il pose des questions. Et Simon Polyte nous l'a dit, hein, on pose des questions. Et évidemment, ça ne va pas simplifier les choses pour la Samaritaine, ni pour les pharisiens qui veulent le lapider, la femme adultère. Mais avec la femme samaritaine, par exemple, il lui demande « Va chercher ton mari ?» Question piège. Jésus a l'art des questions pièges. « Bah oui, je sais, t'en as eu 5, celui avec lequel tu vis, c'est encore pas celui-là. » Ok, il met le doigt sur le problème. Le jeune homme riche, il lui dit « Vends ce que tu as, donne-le au pauvre, et puis viens et suis-moi. » Ah ouh, oh là là, touche pas à mon idole. Pourtant, ce jeune homme, j'ai passé beaucoup de temps sur réfléchir un peu à ce jeune homme, parce qu'il me fait penser au problème des enfants de chrétiens, des deuxième, troisième, quatrième génération, qui sont comme ce jeune homme bien, qui cherche à bien faire, qui cherche à être bien dans la loi, qui cherche à être respectueux de tout. Et quelque part, il se sent pas si mal que ça, parce qu'il n'est pas si mal que ça aux yeux des hommes. Il respecte la loi, mais son problème, et c'est souvent le problème, quand on est dans le monde et qu'on a fait les 400 coups, quand on vient à Jésus, il y a un changement radical. On est libéré de toutes sortes d'addictions. On a l'impression, comme me disait quelqu'un, de respirer l'air du printemps. Ah oui, ça c'est l'expérience de ceux qui sont passés par là. Mais quand on est enfant de chrétien, hein, qu'on n'a jamais touché à rien de mauvais, on n'a pas d'addiction, on n'a pas... Qu'est-ce qui se passe alors? C'est difficile, mais j'ai fait tout bien, j'ai appris à prier en même temps que j'ai appris à parler, j'ai lu ma Bible, je suis allée à l'école du dimanche, etc. Eh bien, pour moi, ce jeune homme riche, il me fait penser à nous tous, puisque je suis dans ce cas-là, moi aussi, à nous tous qui sommes enfants de chrétiens et qui ont essayé de faire plaisir au Seigneur depuis tout petit. Mais on peut aussi, étant enfant de chrétien, garder ses idoles. Et c'est pas forcément l'argent, bien sûr, mais ça peut être toutes sortes de choses, ne serait-ce que nos priorités. Je fais ce que je veux, quand je veux. Mais Dieu, attention, hein, vous ne l'enlevez pas de ma vie. Ça fait partie de ma culture, ça fait partie de ma famille. C'est un peu comme le décor de ma vie. Vous savez, ce bel arbre qui est au fond du jardin. L'été, on se met à son ombre. L'hiver, il arrête le vent. C'est merveilleux, ces grands arbres anciens, magnifiques, qui ont une ramure extraordinaire. Dieu, c'est un peu ça. C'est un arbre merveilleux qui est dans mon jardin. Mais il n'influence pas le reste de ma vie. Je me mets à son ombre quand il y a trop de soleil. Il me protège du vent quand il y a trop de vent. Mais il fait partie de mon décor. Et ça ne change rien à mes priorités. Comment j'utilise mon temps, comment j'utilise mon énergie, mes opinions, etc. Et je crains que souvent, on en arrive là, en tant qu'enfant de chrétien, c'est ce qui nous guette, je me mets dedans, c'est ce qui nous guette parce qu'on n'a pas eu ce changement radical de la nuit au jour, de l'addiction à la liberté, etc. Bien sûr, on connaît nos péchés, on sait qu'on est pécheur comme les autres et qu'on a besoin de se repentir, mais combien de fois on finit, et c'est pas forcément volontaire, on finit par considérer Dieu comme un élément de mon décor de vie. Et c'est là que le bât blesse. Quand Dieu n'est qu'un élément de mon décor, la vie est bien triste. Quand Dieu, et je le dis souvent aux ados, je me répète, quand Dieu ne fait que partie du décor, ça suffit pas. Là où la vie chrétienne devient intéressante, c'est quand c'est ma priorité. Quand je suis obligée de faire certains sacrifices de temps, d'énergie pour le servir. Alors, je crois pas à la vertu salvatrice du sacrifice, hein, mais simplement que, y a des moments où on est amené à faire certains sacrifices pour servir le Seigneur et on a cette satisfaction profonde, vraiment, d'avoir fait ce qu'il nous demande. C'est une priorité. Et pour les enfants de chrétiens qui m'écoutent peut-être ce matin, réfléchissez à ça. Est-ce que Jésus fait partie du décor de votre jardin privé? Et vous y tenez! Et vous voudriez pas qu'on arrache ce bel arbre. Mais est-ce qu'il fait partie seulement du décor ou est-ce qu'il fait partie de vos choix? Est-ce qu'il est le premier servi? Est-ce qu'il fait partie de vos priorités quand vous avez un choix entre deux activités, celle qui glorifie le Seigneur et celle qui est juste un gentil loisir? Est-ce qu'il fait partie de nos priorités? C'est une bonne question à se poser parce qu'alors là, la vie chrétienne devient intéressante. Sinon, je trouve que c'est un petit peu monotone et je crois que c'est pour ça aussi que parfois c'est difficile pour les jeunes chrétiens. Alors, accueillir les autres, c'est pas leur donner raison nécessairement. Jésus, vous voyez, dit « Vends ce que tu as, toi tu es cinq maris, etc. » Et à la femme adultère, il va dire « Va et ne pêche plus. » Accueillir, c'est pas « Je t'accueille tel que tu es, et surtout tu bouges pas, tu restes comme t'es, c'est très bien. » Mais non. C'est pour ça que j'ai aimé cette définition « Prendre par la main » pour emmener ailleurs. Et c'est ce que nous, en tant qu'Église, on est appelés à faire. Ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire par Skype. Prendre par la main pour emmener ailleurs. Et comment accueillir les autres? Alors, c'est important parce que ce verset est dans le contexte des gens qui ont des opinions différentes sur la façon de servir Dieu. Et on a tous des opinions différentes, c'est fait partie des choses normales. Romains 14 traite ça en long, en large. À l'époque, c'était particulièrement pour les aliments. Pour nous, c'est peut-être autre chose aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était les aliments. Est-ce que j'ai le droit de manger du porc ou non? Est-ce que j'ai le droit de manger telle nourriture qui est interdite ou non? Et vous savez, les lois étaient très précises. Hein, je crois qu'ils n'avaient pas le droit de manger de lapin non plus. Enfin, bon, c'était... Et il y en a qui pensaient servir Dieu en respectant ces lois à la lettre. Et puis, il y en a d'autres qui disait la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jésus nous a sauvés, il a accompli la loi, il nous a pardonnés. Voilà, on est dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là à nous barber avec leur porc et leur lapin et je ne sais quoi. Et c'est dans Romains 15, 7, hein, il faut voir le contexte, c'est les forts et les faibles. Donc, vous avez bien compris, les forts, c'est ceux qui se sentent libres par rapport à l'observance des rites et les faibles... selon Paul, hein, c'est ceux qui, par précaution, préfèrent observer strictement. Et dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Eh bien, on les accueille. On les accueille. Ça ne veut pas dire tolérer le péché, attention. Ça veut dire simplement, on les accueille parce que ce n'est pas les choses les plus importantes. Ce sont des opinions. Et on les accueille et on ne s'occupe pas, on ne discute pas avec eux de choses comme ça. Des choses très secondaires qui n'ont rien à voir avec le salut. Accueillir, c'est pas laisser la personne dans l'état où elle est, même si elle s'est repentie. Jésus dira bien, va et ne pêche plus. Même après sa repentance, on a enlevé les guenilles du fils prodigue. Et vous savez que dans la Bible, les vêtements sont le symbole de la justice, propre justice. Vous voyez le texte du grand sacrificateur Josué, etc. Voilà, grand prêtre. C'est souvent le symbole de la justice, qu'elle soit propre justice ou justice tout court. Et le père, quand il a accueilli son fils qui se repentait, qui demandait pardon, une des premières choses qu'il a faites, c'est de changer ses vêtements. Il l'a pas gardé dans l'état où il était. Allez, reste un mendiant, etc. Non, non. Il a demandé à ce qu'on le change, on lui donne des vêtements propres. Et c'est la même chose quand on accueille. L'Église accueille des gens de toutes sortes. Mais on n'est pas là pour dire, faut les laisser tranquilles. Faut pas leur parler d'autre chose. Ils ont leurs croyances, ils ont leur façon de faire. Faut laisser. Non. On accueille, mais on cherche à emmener les gens ailleurs, vers le Seigneur. prendre par la main pour emmener ailleurs. Et la Bible dit bien, soyez transformés. Et on n'est pas transformés seulement au moment de notre conversion. C'est toute notre vie chrétienne. Et c'est un peu ce qui me rassure quand je regarde un peu en arrière et je vois les progrès que j'ai pu faire. Ben, ça m'arrive aussi. Les progrès que j'ai pu faire par rapport à certaines positions, certaines façons de voir. Et je dis, bon, ben, c'est bien. Tant que je progresse, c'est que je suis vivante dans ma foi. Hein, c'est comme les plantes. Hein. Si vous avez une plante en plastique, vous êtes sûr qu'elle bougera pas. Mais voilà, nos belles plantes, là, je sais que vous êtes plusieurs à les entretenir, les arroser, enlever les feuilles mortes, et puis il y en a des nouvelles qui poussent, elles sont vivantes. Et un chrétien vivant, il va se laisser transformer par le renouvellement de sa pensée, le renouvellement de notre pensée. Et en France, vous savez que la pensée, c'est très important. Et on est beaucoup attaqué au niveau de nos pensées. Donc, soyons transformés, mais pas seulement une fois dans notre vie, mais tous les jours. Laissons-nous transformer par le Seigneur. C'est pas toujours facile, parce que parfois on tient à nos idées, hein, et on juge ceux qui n'ont pas les mêmes. Mais attention, soyons transformés par le renouvellement de notre pensée. Alors, on peut se poser la question, pourquoi avons-nous tant de difficultés à accepter l'autre tel qu'il est? C'est pas évident, hein? Regardez les mariages de pays différents, c'est pas toujours évident. De cultures différentes, et déjà de cultures familiales différentes. C'est pas évident. Hein? Claire, elle va savoir ce que c'est bientôt. Et oui, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui fait que on a tant de difficultés à accepter l'autre tel qu'il est et à vraiment l'accueillir pour la gloire de Dieu et comme Jésus nous a accueillis? Alors, c'est parce que souvent, on sait pas accepter nous-mêmes tels que nous sommes. On n'a pas envie de se regarder en face et de dire, oh là là, j'ai telle faille, j'ai telle faiblesse, j'ai tel défaut, ouh là là. Ou alors on le regarde trop, puis alors on sombre dans la dépression. Mais c'est pas ça. On a nos particularités, nos limitations, nos tempéraments, tout ce qui constitue notre personnalité. Et j'aime bien l'humour de Alfred Kuhn, je vous lirai un texte à ce propos tout à l'heure, mais il cite un psychologue américain de grand renom qui dit « J'ai appris à bien vouloir être ce que je suis. Il m'est devenu plus facile de m'accepter comme quelqu'un de très imparfait et qui certainement ne fonctionne pas toujours comme j'aimerais qu'il le fasse. » Et je pense qu'on en est tous là, hein, en tant que chrétien, honnête, on fonctionne pas toujours comme on aimerait fonctionner. En fait, c'est au moment où je m'accepte tel que je suis, c'est-à-dire où je reconnais qui je suis, que je deviens capable de changer. Et ça, ça m'a fait réfléchir. Sur le coup, je dis, oh, pourquoi il dit ça? Mais je crois que c'est vrai. C'est au moment où je m'accepte tel que je suis que je deviens capable de changer. Une fois que je reconnais que j'ai telle faiblesse, tel défaut, tel problème de tempérament, alors je suis capable de changer. Une fois que je l'accepte calmement, sans me rendre malade, mais sans le refuser non plus. Je crois que c'est une leçon que j'ai apprise autant au contact de mes clients qu'à travers mon expérience personnelle, à savoir que nous ne saurions changer ni nous écarter de ce que nous sommes tant que nous n'acceptons pas profondément ce que nous sommes. C'est alors que le changement se produit. Voilà. S'accepter soi-même, avec nos limitations, etc. Dire, ok, ben, je suis comme ça. Et c'est là que le Seigneur va pouvoir nous aider à changer. Mais si on reste dans une culpabilité noire, une dépression terrible sur nos défauts, ben, on va pas bouger. Et si on veut pas les voir non plus, on va pas bouger. Donc, il y a un juste milieu. Simplement, les reconnaître. La deuxième étape, de accueillez-vous les uns les autres, ça se passe dans le cadre restreint de la famille, où nous apprenons à vivre avec d'autres. C'est une excellente école. Accepter sa famille, c'est pas facile. Les parents, les enfants, les frères et sœurs, et le conjoint. Et Kuhn écrit ceci, pour un jeune chrétien, accepter les autres commence par accepter ses parents. Comme Jésus nous a acceptés et nous accepte tous les jours, malgré nos inconséquences, nos chutes et nos faiblesses. Ah, souvent, on rejette ou on méprise ses parents parce qu'ils correspondent pas à l'image idéale que nous avons. Et on se crée des images idéales. Je me souviens quand j'étais en sixième, je prenais le bus pour aller à l'école et il y avait dans le bus un vieux monsieur très digne et je me disais, ah, oh, j'aimerais tellement que mon grand-père soit comme ça. C'était un brave homme, hein, mais voilà, je m'étais fait un grand-père idéal dans ma tête. Ça va, André s'en rapproche bien. Mais voyez, on a ça en nous. Bon, je l'ai pas fait avec mes parents, mais c'est vrai que je l'ai fait avec mon grand-père. Et attends, et du coup, bah si le parent répond pas à l'idéal qu'on s'était forgé, eh ben on va le rejeter ou le mépriser ou autre chose. Problème, accepter nos enfants aussi tels qu'ils sont en réalité et pas dans nos rêves. Hein. Et tout parent rêve d'un enfant parfait, qui réussit à l'école, qui réussit partout, qui fait tout bien, qui est toujours sympa, etc. Voilà. Accepter ses enfants tels qu'ils sont en réalité et pas les enfants de nos rêves, c'est le même principe. Accepter ses frères et sœurs avec les problèmes qu'ils apportent. J'ai une sœur, je sais ce que c'est. Elle m'écoute, donc il faut que je fasse attention. Porter nos frères et sœurs comme Christ nous porte et nous supporte. Ah, et le conjoint, c'est un de mes sujets favoris. Écoutez ça, c'est pas magnifique. C'est l'humour de Monsieur Kuhn que j'aime beaucoup. Voilà. Où l'homme découvre qu'une femme, c'est après les fiançailles évidemment, c'est différent d'un homme. C'est un être qui a des réactions imprévisibles et si peu rationnelles que c'est tellement changeant suivant le temps qu'il fait et les phases de la lune. Et après, il y a la suite. Et un homme, donc. Qu'est-ce que cela peut être différent de ce qu'on a pu penser avant le mariage? Lui, si attentionné, si prévenant, si affectueux, et maintenant entièrement absorbé par son travail, inabordable, et souvent si dur, si égoïste, si oublieux de tout ce qui n'est pas lui. Il est méchant. Voilà, heureusement, il faut un petit peu d'humour dans tous ces domaines. Mais voilà, il dit après quelques années de mariage, on découvre quelqu'un de différent. Accepter nos conjoints, accepter nos frères et sœurs en Christ, avec leurs manies, leurs défauts, et on va terminer là-dessus, leurs idées bizarres, accueillir sans être agacé. Et là, franchement, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que je remercie le Seigneur pour mes parents qui, à partir de mes 14-15 ans, m'ont encouragé à fréquenter toutes sortes de milieux chrétiens. Je me suis retrouvée à la Ligue pour la lecture de la Bible, d'aller au temple luthérien. Après, je suis allée en Angleterre, on a fréquenté les baptistes, les évangéliques libres, les frères. En Italie, j'étais dans une église vaudoise. Enfin, voilà, super. Du coup, je suis à l'aise dans tous les milieux évangéliques. Merci mes parents, merci Seigneur, parce que je regarde pas à la forme, mais au fond. Et je crois que c'est ça le secret. Et il y a un truc qui m'a choquée au début, Marie-France va peut-être s'en rappeler, dans notre groupe d'église, il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient que les églises baptistes charismatiques, ou les églises charismatiques tout court. Et parfois, ils venaient des gens d'autres églises qui avaient une façon de prier bien à eux. Je ne ferai pas de démonstration. Mais le ton de voix, la longueur des prières, le vocabulaire utilisé, les mille et un détails, les répétitions, tout ça, ça les faisait rigoler. Et une fois ou l'autre, je me suis un petit peu fâchée en disant, mais ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux ou les oreilles. Mais Dieu regarde au cœur. Et là, malheureusement, j'aurais voulu que Philippe puisse donner un merveilleux témoignage qu'il a vécu, un petit peu proche du mien aussi. C'est que c'est pas la forme qui est importante, il l'a vécu aussi, lui qui avait été tout le temps dans un milieu, né dans un milieu charismatique, enfin né spirituellement, et qui s'est retrouvé dans l'église de Hélène, une église en Ardèche, je pense que c'était une église réformée, très traditionnelle, il était perdu. Et bon, je lui laisserai vous raconter ça une autre fois. Mais regardons au fond, pas à la forme. Et je pense que pour Jésus, je ne crois pas qu'il y ait deux sortes de prières. Ou trois, ou quatre, ou cinq. En fait, oui, il n'y en a peut-être que deux, si on veut être juste. Il y a celle qui vient du cœur, et il y a l'autre. Celle qui est faite pour se sentir bien ou impressionner la galerie. Et il le dit d'ailleurs hein, quand il montre la prière du publicain et la prière du pharisien. Vous vous souvenez de cet événement ? Il regarde le cœur de celui qui demande pardon avec ses mots. Il est attristé par la prière du pharisien, qui a des belles, belles prières. Ceci étant, ça marche pas que dans ce sens-là. Parce que les deux formes de prière se retrouvent dans tous les styles. Vous allez avoir quelqu'un qui a une certaine éducation et qui va utiliser des belles phrases, des beaux mots, mais son cœur va être dedans. Et c'est ça l'important. Et vous allez avoir quelqu'un qui parle pas très bien, peut-être parce qu'il est d'origine étrangère ou il vient d'un milieu où on ne sait pas trop s'exprimer, et il va utiliser des mots très simples, il va s'embrouiller dans sa prière. Son cœur est dedans, c'est ça l'essentiel. Hein ? Et donc, ne soyons pas choqués ni par la très belle prière, ni par la très moche prière, parce que l'important, c'est le cœur qui est dedans. Et qu'est-ce que Jésus pense aussi quand on critique la prière de quelqu'un ? Je suis sûre que ça doit lui faire très mal, très très mal. Bien sûr, parfois on peut sentir que le cœur n'est pas dedans, laissons ça au Seigneur, c'est entre la personne et Dieu. Mais si le cœur est dedans, arrêtons de nous occuper de la forme, des formules, etc. Et regardons, est-ce que le cœur est dedans ? Vous savez, moi je ne suis pas du tout compétente en matière de musique ou de louange, mais il y a une chose que je regarde, quand je regarde un groupe de louanges à la télé ou sur YouTube ou autre, est-ce qu'on sent qu'ils sont dedans ? Ou c'est un spectacle. C'est tout ce qui m'intéresse. Après, le style, moi j'ai mon style musical, c'est pas grave. Ce qui compte pour moi, c'est est-ce qu'ils ont mis leur cœur dedans ? Est-ce que leurs tripes sont dedans ? Et là, ça me fait du bien, même si c'est pas du tout mon style de musique. C'est pas grave. L'important, c'est le cœur. Et je suis sûre que Jésus réagit comme ça. Et donc, pour revenir à cette notion de prière, je pense que ne jugeons pas les prières des autres. Vous savez, une des prières qui m'a le plus touchée dans cette église, en dehors des prières des enfants à l'école du dimanche, qui parfois sont absolument merveilleuses, eh ben, c'était, comment il s'appelle, qui est en Géorgie? Jean-Claude Meyer. Tout au début, il était tout nouveau dans la foi. Et, ben, il avait pas le vocabulaire religieux. Et en fait, il essayait avec les mots courants d'expliquer ce qui se passait en son cœur. Oh, c'était à vous tirer les larmes. C'était tellement beau parce qu'il utilisait les mots qu'il connaissait pour décrire une réalité profonde de ce qui s'était passé dans son cœur. Et ça m'a marqué. Oui, cette prière-là, je m'en souviens. Parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Ça venait vraiment du cœur. Il essayait d'expliquer comme il pouvait avec les mots qu'il avait. Et nous, évidemment, avec notre beau vocabulaire chrétien, on aurait pu faire. Hein, voilà. Mais c'était tellement merveilleux. Et donc, ne jugeons pas les prières. Qu'elle soit belle ou moche, c'est pas grave. Est-ce que le cœur des gens est dedans ? C'est tout ce qui compte. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Et pour Jésus, j'en suis sûre. Aussi. Et je me souviens de quelqu'un qui était venu à notre réunion de prière, de chrétien très chouette, hein, par ailleurs, et qui avait écouté notre réunion de prière, c'était il y a des années. Tes parents étaient là, d'ailleurs. Et qui avait dit, oui, ce que vous faites là, c'est de la petite prière. Oh, je n'étais pas contente. La petite prière, c'est quoi ça ? C'est quoi la petite prière ? Ça n'existe pas pour moi. Pour moi, la prière, c'est l'expression du cœur avec ce qu'on a à notre disposition au niveau culturel, etc., pour s'exprimer. Mais il n'y a pas de petite prière. Jésus, sauve-moi, comme disait John Wimber. SOS, la plus grande prière. SOS, bah oui, quand ça vient du cœur. Hein? Alors, faisons attention de ne pas juger les formes des autres chrétiens. Accueillons-nous les uns les autres. Et quand on fait les réunions de prière inter-église, vous allez forcément remarquer. Moi, d'ailleurs, je m'amuse un petit peu. Parfois, je dis, ah, tiens, l'église d'Assemblée de Dieu. Tiens, l'Assemblée de Frères. Tiens. Mais c'est sympa pour moi. C'est comme un bouquet de fleurs. Chacun vient avec son style et tout ça. Et on est tous devant le Seigneur. Et dans la mesure où chacun le fait avec son cœur, eh ben, c'est génial. Voilà. Hein? Et c'est ça. Pour moi, accueillir les uns les autres dans l'église, c'est ça. Et après, il faut étendre l'accueil à ceux du dehors, les accepter tels qu'ils sont. Même s'ils sont éloignés des normes évangéliques. Et moi, je me souviens avoir été très choquée. J'avais 5 ou 6 ans. On allait à l'église tous les jeudis. Et l'église était dans un quartier où il y avait beaucoup de clochards. Et de temps en temps, il y en a qui rentraient. Et ce jour-là, il y a un clochard qui est rentré. Il n'avait pas l'air trop éméché. Et la libraire... la libraire n'a rien trouvé de mieux que de le renvoyer vertement dehors. Et j'étais choquée. Parce que moi, à l'école du dimanche, on me racontait que Jésus accueillait, qu'il avait accueilli Bartimée qui criait « Jésus, fils de David !» Ça, ça ne peut pas être joli, joli. Pourquoi ? Il n'était pas dangereux, il n'était pas éméché. Pourquoi le mettre dehors ? Il avait besoin de l'évangile. Et ça m'a vraiment choquée. Et j'en ai parlé à mes parents qui, bien sûr, ne jugeait jamais, donc m'ont dit, bah tu sais, peut-être elle avait peur, etc. Mais c'est resté dans mon cœur, accueillir, accueillir. Et pensons à accueillir les gens qui viennent du dehors. Bien sûr, l'idée n'est pas de les accueillir et de leur dire, restez comme vous êtes. hein, qui sent mauvais, qui est sale, qui sent son petit litron dans le sac, comme ça, pendant des années, venir à l'église. Non. Mais l'idée, c'est de les accueillir, de les prendre par la main pour les mener ailleurs. Et je vais terminer avec ce chant très connu qui dit « Tel que je suis, je viens à toi. Ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. » Mais il ne le laisse pas comme ça. Hein. Il le prend tel qu'il est, mais il en fait quelque chose de bien après. Et c'est vrai pour nous tous. Et je crois qu'on peut terminer en disant « Et toi, fais de même. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos difficultés à accepter le style des autres, à accepter les défauts, les faiblesses, les attitudes. Seigneur, aide-nous à accueillir. À accueillir comme toi, non pas pour que les gens restent dans leurs problèmes, dans leurs défauts, mais pour, avec amour, essayer de les amener à autre chose. À sortir du jugement pour rentrer dans l'amour, dans l'accueil. Seigneur, tu nous aides chacun, on en a bien besoin. Et qu'en cette période de dispersion, nous soyons des ouvriers de paix, des gens qui rassemblent l'Église, même si on ne peut pas la rassembler physiquement, mais qu'on puisse la rassembler par nos paroles de tolérance, d'amour, de paix. Et que ton nom soit glorifié, que tu sois honoré par tes enfants. Amen.